Chapitre 12. Au quartier chinois. Le même soir, comme 10 heures sonnaient aux innombrables horloges de San Francisco, Armand arrivait à l'angle sud du square d'Alta Plaza. Il s'assura que son revolver glissait facilement dans sa gaine de cuir et regarda autour de lui. À sa droite s'élevaient des maisons de construction américaine, hautes et nues. À sa gauche commençait la ville chinoise, avec ses habitations basses, ses toits bizarrement contournés. « Ah ça !» murmura le journaliste, « le mandarin veut donc me faire poser !» Comme pour répondre à la question, un individu, qui jusque-là s'était tenu caché sous la voussure d'une porte, s'approcha, glissant sans bruit sur ses semelles de feutre.
« Vous êtes brave et vous avez besoin d'argent » dit-il du ton nasillard particulier au céleste.
« Bravo !» dit la barrette tout y est, même le mot de passe, marchons.
« Un instant, reprit le chinois, qui vous a envoyé ici ?»«
Un lettré à boutons d'ambre. »«
Où l'avez-vous vu ?»«
À la bourse des marchands. »«
C'est bien vous qu'on en attend, veuillez me suivre. »
Sur ces mots, les deux hommes se mirent en marche d'un pas rapide et s'engagèrent dans une des ruelles du quartier chinois. Armand suivait son guide, dont la silhouette mouvante lui fournissait un point de direction indispensable, car au milieu de la cité américaine que l'électricité inonde de lumière, la ville jaune fait une tache d'ombre. Ici comme chez eux, les natifs de l'Empire du Milieu sont réfractaires au progrès. Les rues devraient être éclairées par des lampes à pétrole. Les lampes existent, mais on ne les allume jamais. Il n'y a que quelques lanternes de papier huilé, et cependant, nulle part, la clarté ne serait aussi utile. Les chaussées de terre battue, coupées au milieu par des rigoles puantes où séjournent les eaux ménagères et les ordures amoncelées par les habitants, sans souci de gêner la circulation, offrent aux promeneurs des facilités extraordinaires pour se rompre le cou. Mais la barrette avait étudié San Francisco, s'il se tint prudemment dans les traces de son conducteur et atteignit, après avoir trébuché 2 ou 3 fois seulement, la rue Sacramento qui traverse le milieu de cet étrange quartier. C'est sur cette voie que sont les habitations des Chinois aisés et les bureaux des agences d'émigration. L'individu que le Parisien accompagnait s'approcha d'une maison voisine, saisit le marteau de cuivre de la porte et le heurta d'une certaine manière sur lui. Aussitôt, le battant tourna sur ses gonds. Les visiteurs entrés, la porte se referma toute seule, sans que personne parût.
« Très amusant, murmura le Parisien, nous avons l'air de jouer un drame du boulevard dans un théâtre bien machiné. »
Tout en parlant, il regardait autour de lui. Il se trouvait dans une cour assez vaste, entourée de bâtiments peu élevés. On ne lui donna du reste pas le temps de poursuivre son examen.
« Venez !» dit son guide en l'entraînant.
En face d'eux s'ouvrait une porte encadrée de solives rouges, agrémentée de filets noirs, laissant apercevoir les premières marches d'un escalier étroit. Tous deux s'y engagèrent. Au premier étage, ils parcoururent une enfilade de pièces vaguement éclairées par des bougies enfermés dans des lanternes de papier. Dans la dernière, où la clarté était dispersée avec moins de parcimonie, 3 hommes, vêtus à la dernière mode de Pékin, s'entretenaient à voix basse. À l'arrivée d'Armand, tous se levèrent, et l'un d'eux, que le Parisien reconnut sans peine pour le chinois de la bourse des marchands, dit à ses compagnons
« Voici le brave dont je vous ai parlé ».
Le journaliste salua sans paraître gêné par les regards scrutateurs que fixaient sur lui 3 paires d'yeux obliques.
« Asseyez-vous, »
reprit le lettré au bouton d'ambre. « Volontiers, » fit la barène, profitant de la permission, et à part lui, il ajouta « Mais quel diable d'affaires vont me promoser ces faces de safran ?» Le guide s'était discrètement retiré. Après un silence, le céleste, qui déjà avait pris la parole, s'adressa au Parisien.
« Vous n'êtes pas anglais, n'est-ce pas ?
À quoi avez-vous reconnu cela ?
Vous vous exprimez bien, mais avec un accent particulier qui m'a convaincu que vous êtes né en France.
All right.
C'est même ce qui m'a décidé à vous fixer un rendez-vous.
Armand s'inclina, attendant que son interlocuteur voulût bien s'expliquer. Celui-ci continua.
$500 sont bons à prendre.
500 $, pensa le Français, tous ces Chinois sont avares. Leur affaire doit être épouvantable. Le lettré se méprit à l'expression de sa physionomie.
Voyons, dit, nous ne finançons pas. Nous sommes autorisés à aller jusqu'à 2000. C'est le dernier prix, acceptez-vous.
Bon, à ce prix-là, murmura Lavarède, ils vont me demander de faire sauter toute la ville.
Eh bien ?
Eh bien, c'est convenu. Quand toucherai-je la somme ?
Dans 3 jours, à minuit.
Ah ? Il y avait du désappointement dans cette exclamation. En recevant de suite une portion de la prime promise, le Parisien eut pu renoncer à l'annonce du California Times qui avait déplu à Missouret.
Qu'avez-vous ?
Interrogea le Chinois. Rien, je répète, c'est convenu. Que faut-il faire ?
Attacher un pavé au pied d'un cadavre et précipiter le tout dans la mer.
Ah ! Dit Armand avec un sourire. C'est vous qui l'avez fait, ce cadavre ?
Non, c'est la maladie.
Tiens, il ne s'agit pas de cacher un crime. Alors pourquoi m'offrez-vous $2000 ? Puis, se frappant le front, ah, j'y suis, oui, toujours le drame. Il y a un héritage.
Non.
Ah, alors je ne comprends plus.
Avez-vous besoin de comprendre ?
Ben, dès l'enfance, je n'ai su agir que lorsque le but m'apparaissait distinct, net et point criminel. Les Chinois se regardèrent, ils eurent un rapide colloque à voix basse. Puis celui qui décidément était le porte-parole reprit
« Soit, vous allez être satisfait. »
« À la bonne heure. »
« Mais souvenez-vous que rien au monde ne pouvait vous soustraire à votre vengeance si vous nous trahissiez. »
« Voilà, c'est inutile, » fit Lavarède tranquillement. « Si j'étais poltron, je ne serais pas ici. Pourquoi vous trahirais-je, puisque je n'ai pas peur de vous ?» Son interlocuteur parut goûter le raisonnement et d'une voix lente commença.
« Notre nom est Lotus Blanc. Notre nom est pas d'hypocrisie. »«
Ah bien, » interrompit Armand, « j'y suis. » « Il s'agit d'un complot politique. Vous êtes les révolutionnaires de l'Empire du Milieu. Ah, oh, mieux ça !» Le lettré lui jeta un coup d'œil bienveillant.
« Vous êtes au courant, tant mieux. Un mot seulement est inexact dans votre définition. Nous ne sommes pas plus révolutionnaires que les gens de ce pays qui disent l'Amérique aux Américains. Nous disons, nous, la Chine aux Chinois. » Conquis par une horde manchoue qui aujourd'hui détient le pouvoir, nous prétendons délivrer notre patrie et établir un gouvernement national chinois.
Et pour vous faire la main, vous massacrez des Européens à Shanghai, Canton, dans le pays de Chili.
Nous déplorons ces massacres sans pouvoir les empêcher. Le bas peuple se souvient qu'en 1860, les soldats d'Europe ont aidé à l'écrasement des Taiping. Voué à la même œuvre que nous, et dans son ignorance, il englobe tous les Européens dans la même haine. Mais, dit le lettré en souriant, nous ne nous sommes pas rassemblés pour faire un cours de politique intérieure. Revenons à nos moutons, c'est, je crois, une expression française.
En effet, affirma le journaliste que le tour de l'entretien amusait.
Voici donc la chose. Dans cette ville habite un nommé Qinchang, manchou d'origine. Autrefois, en Chine, il avait livré aux autorités 2 affiliés du Lotus Blanc. Sachant que la société venge ses membres, ils étaient expatriés. Il était en sûreté ici. Le gouvernement des États-Unis est mal disposé à notre égard. Une grande réserve nous est imposée. Nous tenions cependant à punir son infamie. Vous savez que nous avons l'amour du sol natal. Si nous émigrons, c'est à la condition expresse qu'en cas de décès, notre dépouille mortelle sera ramené en Chine.
Bon, c'est connu, cela. Vous avez même l'habitude, qui vous paraît singulière en Europe, de faire fabriquer votre cercueil de votre vivant. Vous lui donnez une place en vue dans votre logis, et vous mettez une sorte de coquetterie à l'enjoliver de sculptures, de dorures. L'homme au bouton d'ambre inclina la tête d'un air satisfait.
Très exact. Eh bien, nous avons décidé que le corps du Manchu Qin Shang ne rentrerait pas dans l'Empire du Milieu.
Diable!
Avec vos usages, une pareille punition semble puérile.
Mais le journaliste comprenait que les idées chinoises faisaient de cette exclusion une peine terrible. Le lettré poursuivit.
Il eut sans doute vent de notre projet car il prit ses précautions. Il est mort hier et son corps immédiatement enlevé a été transporté au dock de la Boxe Pacifique. Vous ignorez peut-être ce qu'est cette compagnie de navigation ?
Le journaliste ne résista pas au désir de montrer un peu d'érudition et du ton d'un professeur en chaire. « Ah, vous allez voir si je l'ignore, dit-il. Vos compatriotes sont nombreux dans l'État de Californie. Marcel Monnier en compte plus de 50 000. Autrefois, ceux qui succombaient sur la terre d'exil étaient rapatriés par une jonque chinoise qui faisait la navette entre la côte américaine et la côte asiatique. Un départ tous les 2 mois environ. C'était trop peu. Les défunts restaient en souffrance. Il y avait une lacune à combler. Aussi, une société yankee se forma, fréta 4 vapeurs, dotant d'un départ chaque semaine les feux fils de Han. C'est ainsi que vous vous désignez vous-même, n'est-il pas vrai ?
Parfaitement,
affirma le lettré ravi. Comme le Maccabée ne donne pas toujours en quantité suffisante, les steamers de la Box Pacific Lime Company complètent leur chargement en acceptant des marchandises et même quelques passagers que ces corbillards nautiques n'effraient point. Voilà.
Allons, déclara l'homme au bouton d'ambre décidément conquis. Je vois que j'ai eu la main heureuse.
Armand s'inclina.
Voici ce que nous attendons de vous. Le cercueil de Qin Shang porte le numéro 49. Il s'agit d'en extraire le manchou et de le jeter à la mer avec une bonne pierre au cou.
Et vous offrez $2,000 pour si peu de choses ?
C'est plus difficile que vous ne croyez. Aucun de nous ne peut mener à bien l'entreprise. D'abord, pas un Chinois n'accomplirait ce sacrilège. Ensuite, la compagnie est sur le qui-vive et le gardien du dock doit se défier de tout ce qui ressemble à un sujet du Fils du Ciel.
Tandis qu'il n'aura pas de méfiance envers moi, Européen, acheva le Parisien, et j'en abuserai pour détériorer sa cargaison.
C'est cela même ?
De plus, ajouta la Varenne, la société est américaine, et en cas d'insuccès, vous ne vous souciez pas d'avoir affaire aux tribunaux de l'Union. Ah, en effet, je commence à comprendre les difficultés, effraction, vol, sacrilège, etc. Son interlocuteur se mordit les lèvres, mais se remettant aussitôt.
Dame, $2,000, 10 000 francs, monnaie française.
Valent bien que l'on court quelques risques, c'est mon avis. J'accepte le marché, mais comment la somme me sera-t-elle remise ?
Le dock est à 50 mètres du port. Durant toute la troisième nuit, à compter de celle-ci, un des nôtres y sera en faction. Et en lui présentant le cadavre, vous toucherez l'argent.
Donnant, donnant, cela me va. Il ne me manque plus qu'à trouver le moyen d'entrer dans le dock.
Non, cela vous regarde. Cependant, je vais vous donner un renseignement utile.
Voyons.
L'employé qui sera de garde cette nuit-là est un nommé Vincent, irlandais d'origine. Il prend ses repas à Oxtel Tavern dans Sussgrave Street, à côté des installations de la Box Line face à l'Oceanic Steamship.
C'est noté.
J'ajouterai encore ceci. Il est indispensable d'agir au moment fixé, car le lendemain matin, Les bières seront embarquées sur le Hemingway. Tu prendras la mer dans la journée. »
Le visage du journaliste s'illumina, et ne pouvant se contenir plus longtemps, l'aimable garçon s'écria « Eureka !»«
Vous avez trouvé quoi ?»
interrogea le Chinois, prouvant ainsi qu'il méritait de porter l'insigne des lettrés. « Ce que je cherchais, soyez heureux, vous aurez votre manchou. » Et mentalement, il ajouta « Il me gênerait trop sans cela. » Tout en étant arrêté, le jeune homme prit congé de ses hôtes et regagna l'hôtel en fredonnant. Sans doute, il avait rapporté du quartier chinois une gaieté robuste, car le lendemain au déjeuner, Sir Burlington et Miss Red s'étonnèrent de sa belle humeur. Ils lui en firent la remarque. « Bon, répliqua la varenne, vous allez comprendre ma joie. Aujourd'hui, lundi 3 août, j'ai l'honneur de vous annoncer que jeudi 6, je quitterai San Francisco. » « Ah 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 !» prononça derrière lui une voix qui le fit tressaillir. Il se retourna, Bouvreuil était auprès de lui. Bouvreuil, qui frappait de son air réjoui, s'était approché sans bruit et avait entendu ses dernières paroles. Un instant, Armand avait oublié son ennemi, mais si désagréable que lui fût son apparition, il se garda d'en rien laisser voir. « Tiens, encore ce brave monsieur Bouvreuil, » dit-il en souriant. « Moi-même, vous parliez de votre départ, et comme l'intérêt que je vous porte m'interdit de vous quitter. » Voyez un peu combien est vrai l'axiome en amitié. Il en est toujours un qui aime et l'autre qui se laisse aimer. Je suis l'autre et je compte bien vous fausser compagnie. Oh, ne l'espérez pas, ma fille Pénélope attend. Le nom de la fille de l'usurier avait le don d'exaspérer Armand. Monsieur Bouvreuil, dit-il, Pénélope attendait Ulysse en filant par prudence. Je vous engage à en faire autant. Son pied avait des mouvements inquiétants. Le propriétaire s'éloigna, non sans avoir décoché au jeune homme cette phrase saugrenue. « Vous êtes vif, mais je suis tenace, nous verrons bien. » Débarrassé de lui, Lavarède conta à ses compagnons de voyage son expédition chez les semelles de feutre. Il leur fit part du projet qui, tout naturellement, avait germé dans son cerveau. Prendre la place du mandarin Qinchang et gagner la Chine dans le cercueil 49 réservé aux défunts. Burlington se récria. « Mais alors, ma fille et moi devons prendre passage sur ce navire funèbre, le Hemingway, et passer une vingtaine de jours au milieu des trépassés. » Aurette avait pâli légèrement. Cependant, elle se hâta d'interrompre l'anglais. « Nous n'avons pas le droit de mettre obstacle au départ de M. Lavarède. Ce serait incorrect, mon père. » « Sans doute, mais vous exagérez beaucoup ma sensibilité nerveuse. Je suis plus intrépide que vous ne semblez le croire, et la traversée sur le steamer du Box Pacific Line ne me paraîtra pas autrement insupportable. » Le journaliste comprit tout ce qu'elle ne disait pas. Il voulut la remercier, mais elle l'arrêta et, souriante, « Vous avez vu la mort de près pour moi, à mon tour. Je verrai les morts, je m'acquitte. » Elle débita cela gentiment, avec tant de bonne grâce que Sir Merlitton fut persuadé que ses craintes n'étaient pas fondées. Rien ne s'opposait dès lors à ce qu'il retint deux cabines à la compagnie de navigation dès qu'il aurait reçu l'argent de Londres. Et l'incident fut clos à la satisfaction générale. Armand pria seulement ses amis de faire tous leurs efforts pour dérouter l'insupportable Bouvreuil, et tous attendirent l'heure de se présenter au Californian Times pour connaître le résultat de l'annonce parue le matin. À la nuit, ils se rendirent au bureau du journal. Le nombre des lettres arrivées à l'adresse de LPD 26 atteignait 500, ce qui, à 10 cents par missive, représentait 250 francs ou 50 dollars, le double de ce qu'il leur fallait. « Oh, puissance de la réclame !» déclara le gentleman ravi qui, ainsi qu'il avait été convenu, se contenta de prélever les 26 $ réclamés au télégraphe. 50 minutes plus tard, il avait câblé à ses banquiers de Londres et il rentrait au China Pacific, où les jeunes gens l'avaient précédé. Il les trouva au parloir et, tout rasséréné par l'assurance d'être bientôt muni d'argent, il dit à la varenne en lui serrant la main à la brisée, « Je commence à croire que vous hériterez de votre cousin. »« Oh, nous ne sommes pas au bout du voyage. »« Ben, ça vous êtes à ne pas dépenser vos 5 sous et à faire fortune en route. » Armand lui rendit son check-end et lui murmura, « Nous sommes 10 000 comme cela au boulevard qui vivons en général dans le rêve. Si nous nous mettions en tête d'amasser de l'argent, il ne resterait bientôt plus pour les financiers. » Chapitre 13. The Box Pacific Line Company. Sesgrave Street est une rue étroite qui aboutit sur le port. C'est là qu'est la taverne de la soupe à la queue de bœuf, Oxtel Tavern, où des jeunes l'Irlandais Vincent, employé du box, signalé à Armand par son chinois aux 2 000 $. Le mardi à midi, ayant brossé son complet de coupe anglaise et lissé sa moustache brune, Lavarel entra en ce cabaret, les yeux pétillants de joyeuse espérance. Il traversa, sans le regarder, le public de marins, d'ouvriers du port et de bas employés entassés aux tables, s'approcha du comptoir et s'adressa à la patronne, grosse commère coupe rosée, qui éclatait dans sa robe. « Pardon, madame, un renseignement, s'il vous plaît. Oh, tout ce que vous voudrez, gentleman, répondit la forte dame en minaudant. 1000 fois bonne, n'auriez-vous pas parmi vos hôtes un Sir Vincent ?»« Ah, si bien. Est-il ici en ce moment ?» La tavernière parcourut la salle du regard et la bouche en cœur. « Il y est, tenez là-bas, dans le coin, celui qui est assis à la petite table ronde. »« Ah, tout seul ? Oui, il préfère cela. » Armand lança à l'aubergiste un coup d'œil qui pensa la faire pâmer d'aise et se dirigea vers le personnage qu'elle lui avait désigné. Gros, court, les cheveux blonds roux, Vincent, installé dans un angle de la salle à manger, mangeait gloutonnement, lisant un journal. Ses poings charnus allaient et venaient sans qu'il levât la tête, et il était à ce point absorbé par sa double occupation que seul peut-être de l'établissement, il n'avait pas remarqué l'entrée du Parisien. Celui-ci prit tranquillement un escabeau, s'assit en face de l'employé du Box Pacific, et appliquant la main sur le journal, « C'est à M. Vincent que j'ai l'honneur de plaisirer ?» demanda-t-il. L'homme toisa celui qui le dérangeait ainsi. Sûrement il était mécontent d'être troublé dans son repas, mais le journaliste ne s'est vu pas pour si peu. « Ah, vous ne me connaissez pas, reprit-il, c'est tout naturel, j'arrive de France. Je cherche un cousin qui habite la ville, il se nomme Vincent, il a droit à la moitié d'un héritage. » Le gaillard a quitté le pays il y a de longues années. Je ne l'ai jamais vu, alors je parcours Frisco, visitant tous les Vincent. Peut-être êtes-vous le bon ? Moi ? Grogna son interlocuteur. Dame, c'est possible. Au reste, nous allons bien le voir. Mais je déjeunerai en même temps, cela sera plus agréable pour causer. Y a-t-il du vin présentable ici ? Le visage de Vincent se dérida. Oui, bon, il est cher. Bah, je ne vise pas à l'économie. Vous ne me refuserez pas de me faire raison. Cette fois, la figure de Vincent devint presque aimable. Comment ne pas bien accueillir, du reste, un inconnu qui vous propose un héritage et du vin généreux. Sur son ordre, le boy qui faisait le service leur apporta un plat quelconque et plaça devant eux une bouteille cachetée de verre. La marraine les remplit aussitôt, et, choquant le verre de son vis-à-vis, « À votre santé, dit-il, et puissiez-vous être mon cousin. Ceci sans compliment, vous avez une physionomie qui me va. » Son commensal cligna des yeux,
lampa d'un trait le vin qui lui avait été versé, puis faisant claquer la langue. « Fameux tout de même » murmura-t-il. « Dommage qu'on puisse pas en faire son ordinaire !»« Oh, on le pourrait !» reprit le Parisien en baissant la voix. « Si l'on avait la chance d'hériter !»« Ah, oh, ça oui, seulement, voyons, parlons donc de l'affaire en question !» Bon, je ne demande pas mieux, puisque j'ai fait le voyage d'Amérique exprès. Mais laissez-moi manger un peu, je meurs de faim. Le boy venait de servir la varenne, et pendant un instant, le journaliste parut s'absorber dans la dégustation du ragoût au peppermint placé devant lui. Vincent l'observait en dessous avec une impatience qu'il eût sans doute exprimée si Armand avait pris soin de remplir son verre à plusieurs reprises. On ne bouscule pas l'homme qui distribue si généreusement le lait de la vigne. Enfin, il jugea son sujet bien à point, et entamant une seconde bouteille que le garçon lui présentait avec le respect lui débitant pour le client qui fait de la dépense, « Mon cher monsieur Vincent, dit-il, vous concevez que mon enquête est délicate et que, pour n'être pas victime d'un aventurier quelconque, j'ai dû m'entourer de précautions. » Oh, sans doute, mais vous ne pouvez être confondu avec les aigrefins si nombreux dans cette ville. Vous êtes un citoyen honorable, vivant de son travail et auquel mon estime est acquise. Mon entrée en matière avait seulement pour but de vous prier de vouloir bien répondre à certaines questions préliminaires indispensables. Vous n'avez qu'à interroger, je répondrai. L'employé était visiblement sur des charbons. Il avait hâte de savoir. « Bon, murmura la marraine, le poisson effaré y a plus qu'à tirer la ligne. » Et gracieusement, « Connaissez-vous le lieu de votre naissance, monsieur Vincent ?» L'homme eut un mouvement d'épaule. « By God, voilà une demande !» Je suis resté jusqu'à 20 ans au pays. Qui se nomme Ladbroke Hill, à 6 000 de Dublin, Irlande. Le Parisien simula une surprise joyeuse, et par réflexion, le visage de Vincent s'éclaira. Vous continuez l'interrogatoire? Demanda-t-il timidement. Oh, je crois bien. Vous êtes fils de. « De José Williams Vincent de Lodbrook et de Marie Paulina Crooks de Nodbrook. Très bien. »« Très bien, » fit l'employé haletant. « Suis-je votre cousin ?»« Presque. »« Comment, presque ?»« Oui, il ne reste qu'un point à éclaircir. »« Oh, faites vite !» Affolé à la pensée d'hériter, Vincent avait une si étrange figure que le journaliste fut sur le point d'éclater de rire, ce qui sans nul doute aurait compromis le succès de sa négociation. Il se contint non sans peine et poursuivit. N'avez-vous pas souvenir d'une vieille parente qui habitait Dublin? Riche et très avare, elle ne voyait jamais ses parents, craignant sans doute que les pauvres gens ne lui empruntassent quelque chose. L'employé parut chercher. Non, dit-il enfin avec effort, tremblant que sa réponse ne mît fin à son rêve doré. Cela n'a rien d'étonnant. Le père est mort quand j'avais 12 ans et la mère l'a suivi en terre au bout de quelques mois. Cherchez bien la tante Margaret. « Margaret !» s'écria Vincent triomphant. « Je connais ce nom-là !» Barbleu, pensa la varenne, il est assez commun en Irlande. Puis, avec une gravité parfaitement jouée, le jeune homme tendit les mains à son interlocuteur en disant « Cousin !» Oh, l'autre ne le laissa pas échapper, achever. Oh, « Cousin !» répéta-t-il. « Nous le sommes, cela ne fait plus de doute pour moi. » « Écoutez donc !» La tante Margaret est décédée, laissant 8 000 livres sterling, 200 000 francs à partager par moitié entre vous et moi. à la condition que nous toucherons tous deux le même jour. Elle a voulu sûrement réparer ainsi ses torts envers les deux branches de la famille. Et au pauvre diable qui l'écoutait bouche bée, il raconta comment lui-même, étant quelque peu pressé d'argent, s'était décidé à venir en personne retrouver son cousin. Il lui dit être descendu au China Pacific Hotel dans Montgomery Street, ce qui fit ouvrir de grands yeux au besogneux Vincent. De ce train-là, remarqua ce dernier, vos 4 000 livres ne vous conduiront pas loin. Ben non, je ferai pas le grand seigneur, j'achèterai de la terre en Irlande et je vivrai en fermier. Lavarette ne se souciait pas de connaître les projets d'avenir de son pseudo-parent. Il l'interrompit donc pour demander « À quelle heure devez-vous rentrer à votre fils ?»«
À 2 heures.
Il est moins 5. »«
Oh, que m'importe maintenant, j'ai envie de leur donner ma démission !» Armand sursauta. « Oh non, non, pas ça !» s'écria-t-il.
En une seconde, il voyait réduit en poudre son plan si péniblement pressé.
« Pourquoi pas ça ?»«
Mais parce que... » Il ne pouvait pourtant pas lui répondre « parce que j'ai besoin de vous pour pénétrer dans le dock de la compagnie. » Cherchant ses mots, il dit « parce que... les formalités seront longues chez les notaires des United States qui doivent se mettre en relation avec ceux de Dublin représentant la tante Margaret et avec celui de Paris chargé de mes intérêts. » « Si vous donniez votre démission aujourd'hui, vous risqueriez de rester un bon mois sur le pavé. »«
Oh, c'est juste, mais c'est dommage aussi, car j'aurais bien voulu éviter la corvée qui m'incombe demain. »«
Laquelle donc ?» fit le Parisien du ton le plus naïf du monde, tandis qu'il remerciait mentalement le dieu des voyageurs d'avoir amené la transition tant désirée.
Ben, la garde de nuit auprès des Sleeping Yellows, autrement dit les Chinois défunts.
Lavarette prit l'air surpris d'un touriste ignorant et se laissa bénévolement expliquer par l'employé le fonctionnement de la Banque Pacifique.
Brrr, murmura-t-il quand Vincent eut fini, cela doit faire une singulière impression de passer la nuit au milieu de ces cercueils. Oh, c'est assommant!
Pas banal au moins comme aventure de voyage. Et si c'était possible, j'aimerais assez le faire pour le raconter à mon retour.
Ben, cela se peut, s'écria son interlocuteur enchanté. Et si le cœur vous en dit?
Ma foi, oui.
Ben, rien de plus simple. Demain, j'entre par la porte de l'administration, vous restez au dehors. Je vous ouvre la porte donnant sur le quai, c'est par là que l'on enlève les colis pour les embarquer, et ni vu ni connu, nous sommes chez nous jusqu'au matin. Apportez du whisky.
Armand avait peine à cacher sa joie. Sa ruse avait complètement réussi. Le gardien lui-même s'offrait à lui faciliter l'entrée du dock. Maintenant, il s'agissait de quitter Oxtel Tavern sans bourse déliée, puisqu'il y avait toujours en poche que ses 25 centimes.
Cousin, dit-il, une proposition. Oh, j'accepte d'avance.
Étant de garde demain, vous obtiendrez facilement de votre administration congé pour cet après-midi.
Vous pouvez bien que oui.
Allons le demander ensemble. Ensuite, nous nous rendrons à mon hôtel où nous dînerons.
Je ne sais si je dois, balbutia l'employé, tout ému à l'idée de prendre son repas à une table de premier ordre.
Acceptez donc.
Allons, soit.
Le quart d'heure de Rabelais était arrivé, mais il avait été préparé de main de maître, et quand Lavarède, après s'être fouillé, déclara d'un air ennuyé qu'il n'avait que des valeurs françaises, Vincent lui assura noblement qu'il ne l'aurait pas laissé régler la dépense. Il alla même plus loin, il exigea de son nouvel ami qu'il acceptât encore à déjeuner le lendemain à l'Oxtel Taverne, politesse à laquelle Armand répondit « Soit, mais je vous aurai le soir au China. »
Parfait. Le déjeuner à moi, le souper à vous. Et radieux, le gros homme pensait. Je fais une excellente affaire comme ça, car à l'hôtel, c'est meilleur et plus cher. En rentrant chez lui, le journaliste rencontra Sir Murlyton qui sortait. Le digne gentleman était radieux. Il avait reçu la réponse des banquiers de Londres, touché son argent à l'office central des postes et reportait au Californian Times les lettres ouvertes par lui après y avoir honnêtement remis les 10 cents empruntés au naïf correspondant. L'annonce indiquée par la Varède réglerait définitivement la question. Un instant, le Parisien quitta son pseudo-cousin et à voix basse, il dit à l'anglais « Profitez de votre promenade pour retenir votre passage à bord du Hivenway. Ah, nous partons donc ! En avez-vous douté ?» Et, désignant Vincent, ce brave garçon m'en fournit le moyen, sans s'en douter, bien entendu. Il vous comptera cela au dîner, je l'ai invité pour ce soir et demain. » Mais, fit Murlyton, deux dîners vont vous coûter plus de 25 centimes. Armand secoua la tête. Pas le moins du monde. Vous avez payé à Master Tower 8 jours pleins. Oui, mais je ne vois pas. Attendez. Nous sommes arrivés samedi ici. L'hôtel me doit donc tous les repas jusqu'au déjeuner du samedi inclusivement. Or, je quitte la maison mercredi soir, ayant encore droit pour les jeudis, vendredis et samedis à 5 repas. J'en prélève 2 pour cet homme. Quant aux 3 autres, je les emporte. Monsieur Tower reste donc mon débiteur pour ma chambre qui devient vacante 2 jours avant le terme fixé. Très justement raisonné, réclama l'anglais. Je vais retenir les places à la box pacifique. Le soir au dîner, Vincent, à qui le Parisien fit raconter l'histoire de leur connaissance, amusa éperdument le gentleman et sa fille. Seulement quand il fut parti, Miss Red dit doucement à la Varède oh, « Le pauvre homme fait de la peine, il croit à son héritage et sa désillusion sera grande. Ah, »« Bon, mais je lui ménage une consolation. »«
Laquelle ?»
Il hésita une seconde, puis, pendant son parti, oh, « C'est un secret que vous me demandez là. » Porrette le regarda bien en face et avec un accent singulier. « Oui, je le demande, il y a une ombre dans ma pensée. Chassez-la. »
« J'obéis.
Je destine à Vincent les $2000 de mes amis les Chinois. » Le visage de la jeune fille s'illumina d'un sourire. Elle tendit la main à son interlocuteur et la serra vigoureusement avec ce seul mot « Oh, merci !» Rentrée dans sa chambre, elle se déclara sérieusement qu'elle était très satisfaite de parcourir le monde en compagnie de la Varède. Mais par un sentiment de réserve bizarre, elle ne dit rien de tout cela à l'honorable sœur Murlyton.